c'est ahurissant à quel point les GAFAM ont complètement acheté la haute fonction publique avec ce système-là.
Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet.
Bonjour et bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, on décrypte l'actualité connectée avec Damien Douany. Salut Damien.
Bonjour.
Avec Fabrice Épelleboin. Salut Fabrice.
Salut.
Vous allez bien tous les deux ?
Oui. Parfait.
On est chacun chez soi. Certains d'entre nous ont peut-être des pantoufles et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Non, on ne va pas parler de pantoufles, mais de pantouflage. Et à l'idée de départ de ce sujet-là, en fait, c'est cet ancien directeur de la NSA, de 2005 à 2013, qui est arrivé au conseil d'administration d'Amazon. Ça fait causer aux États-Unis, mais ça va nous donner l'occasion de parler de pantouflage. Comment est-ce qu'on dit pantouflage en anglais ? Est-ce que c'est revolving door ? C'est quelque chose comme ça ou pas ?
Alors, revolving door, c'est un double pantouflage. C'est pantouflage, double pantouflage. Ça consiste à avoir une politique qui fait que tu vas avoir une carrière qui va se passer en partie dans le privé, où tu vas avoir des enjeux business, et pour une autre partie dans le public, où là tu vas avoir une forme d'autorité par rapport au monde du business. C'est plutôt ça le problème que le pantouflage, parce que le pantouflage, c'est quelque chose qui nous vient d'une époque où grosso modo, tu terminais, après avoir une longue carrière dans le service public, tu terminais ta carrière dans le privé, et finalement tu profiter un peu des avantages que tu avais accordés au monde du business, hein, qui, en retour, en fin de carrière, t'accordait un joli salaire et une place confortable. Là, les revolving doors, c'est plus vicieux. C'est que vraiment, on passe sa vie à faire des allers-retours entre public, privé, privé, public. Et là, effectivement, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et c'est l'un des principaux aspects de la corruption telle qu'elle s'exerce dans des pays comme la France, avec les GAFAM, hein, pour notre territoire. Dans d'autres secteurs industriels, ça se passe autrement. Mais pour les GAFAM, on est vraiment au royaume du pantouflage, double pantouflage, avec une confusion totale entre public-privé, intérêt public-intérêt privé. Tout ça se double de pantouflage pour les enfants, pantouflage pour le compagnon, la compagne. C'est ahurissant à quel point les GAFAM ont complètement acheté la haute fonction publique avec ce système-là.
Alors, je veux juste préciser que le gars s'appelle Keith Alexander. Donc, il a dirigé la NSA pendant 8 ans, quand même. Son nom est lié à Prism, l'outil qui est capable de prendre des informations un peu partout. Google, Microsoft, Yahoo, Facebook, Apple, YouTube. Hein, c'est une autre forme de Palantir. A également pris la direction du cybercommandement militaire des États-Unis sous l'administration Obama de 2010 à 2013. Donc, il a 2-3 biscuits d'informations privées en stock. Et ce type-là se pointe au conseil d'administration d'Amazon en pleine bataille entre Amazon et Microsoft sur un contrat gigantesque avec le Pentagone. Ça fait donc grincer des dents aux États-Unis. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est l'extrême absolu de la corruption possible entre privé et public. J'ai l'impression. Enfin, est-ce que tu l'as ressenti comme ça, Damien ?
Ah ouais, très clairement. Moi, l'autre question qui m'est venue spontanément, c'est que va faire un mec de la NSA chez Amazon ? Parce que, je veux dire, on recrute la plupart du temps ces gens pour deux raisons. Soit pour leur réseau, et ou pour leurs compétences. Donc là, je pense qu'il a plutôt été recruté pour ses compétences. Donc je serais salarié d'Amazon aux États-Unis, tout au moins, je serais un peu flippette, parce qu'on a quelqu'un qui est capable de mettre en place un système de flicage généralisé des salariés ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire. Je dis qu'on pourrait imaginer que ce soit ça qu'ils fassent, puisque de toute façon, il l'a mis en place au niveau mondial. Alors, ça ne devrait pas lui faire peur de le mettre en place au niveau d'une boîte comme Amazon. Donc ça, c'est la vraie question que je me suis posée en voyant ça. Au-delà du fait qu'effectivement, il y a du pantouflage ou qu'il s'en aille. La vraie question, c'est ça. C'est tu acquiers dans le public des compétences critiques. Et je note que les administrations ne sont pas forcément capables de garder ces personnes-là. Alors, après, on a la liberté d'aller ailleurs, bien sûr. Mais la question, c'est même malgré tous les contrats de confidentialité que tu peux avoir, ça n'empêche personne d'aller ailleurs et d'exploiter ses compétences au service d'une société. Je ne dis pas qu'il va refaire ce qu'il a fait à la NSA chez Amazon, mais il va très certainement utiliser ses compétences pour mettre en place certainement un système de traçage chez Amazon. On pourrait imaginer ça.
Alors, je pense pas, contrairement à Damien, que ça soit pour ses compétences qu'il ait été embauché. À mon avis, c'est plus pour ses réseaux, parce que l'armée représente un marché gigantesque, hein, pour des marchands d'infrastructures comme Amazon. Honnêtement, penser qu'un ancien boss de la NSA puisse mettre en place un système de surveillance des employés d'Amazon, d'abord, il est déjà en place, le système de surveillance des employés d'Amazon, on va plutôt le confier à une intelligence artificielle qu'à des gens qui font du contre-terrorisme ou de l'espionnage industriel. Et par ailleurs, les relations qu'on peut présupposer préexistante entre la NSA et Amazon, c'est que Amazon est avant tout le numéro un de l'infrastructure technologique, et donc à ce titre, la NSA a besoin d'avoir, on va dire, une bonne relation de travail avec Amazon pour faire son travail qui est d'espionner la Terre entière. Mais vraiment, j'insiste, je pense vraiment que l'intérêt d'embaucher quelqu'un d'aussi iconique que l'ancien patron de la NSA, c'est d'apparaître comme un interlocuteur extrêmement sérieux vis-à-vis des militaires quand il s'agit de faire du business avec des militaires.
Mais quand on est dans une entreprise et qu'on a un poste extrêmement important, on a une clause de non-concurrence qui nous permet de ne pas aller chez le concurrent parce qu'on sait qu'il y a des secrets qui peuvent transverser. Comment ça se fait que les services publics, au moment précis, ne sont pas capables de dire « Non, non, bah toi, tu as été directeur de la NSA, tu ne peux pas aller dans le privé parce qu'il y a trop d'informations confidentielles que tu vas pouvoir leur livrer. Enfin, » c'est quand même dingue.
Je connais pas la législation américaine en la matière. Par contre, je connais la française. En France, c'est totalement interdit. Tu ne peux pas, par exemple, un jour être ministre de la Culture et demain... juste après avoir été ministre de la Culture, travailler pour un acteur du monde culturel. C'est strictement illégal. Et si tu le fais, ça n'arrive
ça n'est jamais arrivé
en France, parce qu'on est extrêmement rigoureux et on ne déconne pas avec l'état de droit en France. Mais il n'est pas impossible que je sois en train de raconter des conneries.
C'est possible. Bon, je vais citer des noms comme ça, on va faire du name-dropping, mais je veux dire sans aucun jugement de valeur, simplement sur la classe politique française de ces dernières semaines. On a eu Édouard Philippe, donc ancien Premier ministre, qui est donc administrateur du groupe informatique Atos. Jean-Marie Le Guen, qui était secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, qui est entré au sein du CA de Huawei France. Comme l'avait fait d'ailleurs Jean-Louis Borloo, qui est un homme politique, qui avait été...
Raffarin,
qui était administrateur de Huawei en 2016. Dans l'autre sens, on avait Brune Poirson qui était arrivée à l'écologie et qui avait fait une partie de sa carrière chez Veolia. Et puis on a Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui lui était au cabinet Auguste Debouzy, qui est un cabinet d'avocats d'affaires. Ça, c'est très à la mode. Qui est revenu dans le même cabinet ensuite avec les informations du Premier ministre. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont livrer des secrets d'État à ces boîtes-là nécessairement, mais ça veut juste dire que ça se passe de façon très, très régulière, ces allers-retours en France.
Il y a deux problèmes. Il y a le fait qu'ils pourraient livrer des secrets d'État. Mais le problème principal, c'est que ces entreprises pourraient être favorisées par ces politiques de façon à ce que ces politiques se réservent une place au chaud chez ces mêmes entreprises. Et c'est plutôt ça le problème. C'est cette synergie qui est très clairement de la corruption, qui se fait dans l'impunité la plus totale. Et je ne pense pas que la France soit la seule à baigner là-dedans. Je pense que c'est plutôt la règle. Il faut aller en Suède pour voir ce genre de comportement sanctionné et surtout condamné, parce que au final, le fond du problème, c'est même pas qu'il n'y ait pas vraiment d'état de droit quand ça concerne ce type de population. Le problème, c'est que la population elle-même s'en fout et qu'elle ne réagisse pas et que ça ne la choque pas. Donc, honnêtement, c'est facile de taper sur l'absence de justice. L'opinion publique elle-même ne se saisit pas de ce genre de problème. Les médias, évidemment, mais bon, ça, c'est un grand classique, ne s'en saisissent pas non plus. On ne parle jamais de corruption à la télé, sauf exceptionnellement que pour Balkany. Mais on a un vrai problème de tolérance face à ça dans la société française.
Parce que les médias ne relaient jamais ces informations dans leur contexte, en fait.
C'est un peu facile de toujours accuser les médias. Oui, les médias ne parlent pas de corruption. Se dit un jour ou l'autre, ça va péter. Hein.
Non, mais même sans parler de corruption, on peut parler de collusion. Collusion public-privé, c'est le terme un peu plus soft.
On n'en parle jamais dans les médias, c'est un fait. Mais la population n'est pas friande de ce genre de sujet. Et les médias sont malheureusement, la plupart du temps, livrent à la population ce qu'elle a envie d'entendre. Hein. Pour l'instant, l'opinion publique s'en fout. Donc, très concrètement, Pascal Praud n'en parlera pas le matin sur CNews. On lance un appel à Pascal Praud. S'il veut parler de ça, vraiment, on sera ravis d'intervenir sur son plateau.
Après, il y a un autre sujet qu'on pourrait se poser, c'est qu'on critique beaucoup les politiques comme étant des professionnels de la politique. Tu parlais de Balkany tout à l'heure. Balkany est un professionnel de la politique, il n'a fait que ça de sa vie, et pour autant, ça ne l'a pas empêché de détourner du fric. Donc, très clairement, on se plaint d'un non-renouvellement de la classe politique, et que donc, pour le renouveler, il faut bien aller chercher les gens quelque part. Donc, typiquement, des gens qui ont eu une autre vie, qui ont été enseignants, qui ont été entrepreneurs, qui ont travaillé dans le privé, et qui vont aller donc vers le public. Si à partir du moment où on veut un renouvellement d'une classe politique, il faut aller chercher les gens ailleurs. Mais ça veut dire qu'aussi les gens qui vont venir, à un moment, vont peut-être dire « mais moi j'ai envie de repartir vers autre chose ». Donc, il y a un problème là qui se pointe du doigt, c'est que dès que tu rentres dans les cercles du pouvoir, de toutes les manières, tu vas te faire un réseau, tu vas avoir de l'influence, et logiquement, il peut être intéressant pour un acteur du privé de vouloir, et moi je ne trouve pas ça choquant, de vouloir t'utiliser pour tes compétences. L'exemple typique, c'est Sarkozy chez Lagardère. Donc, très clairement, la question, c'est est-ce que c'est de la corruption, véritablement, ou est-ce que simplement c'est un mouvement qui est de se dire, bah ouais, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on veut une classe politique qui est professionnelle chez professionnel, et auquel cas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de possibilité d'en ressortir une fois que tu en fais partie, mais c'est-à-dire que tu fais ta carrière comme politique, avec toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi, sauf si on est suédois, bien sûr, et qu'on ait le doigt sur la couture du pantalon. Soit il y a des va-et-vient qui peuvent être, on va dire, acceptés. Alors après, oui, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est si on est de contrat public, c'est-à-dire en gros, si on est fonctionnaire et qu'on va faire ce pantouflage, ça peut déjà faire plus grincer des dents que si on est un ancien avocat qui est devenu un homme politique.
C'est assez encadré tout ça, en fait. Hein. Il y a peut-être des ajustements législatifs à faire, mais c'est déjà vachement encadré. Le problème, à ce niveau-là, comme au niveau le plus bas de l'échelle, c'est l'application de la loi. La loi n'est pas appliquée, absolument pas appliquée. Donc si on commençait par appliquer la loi, déjà, je pense que ça pourrait faire considérablement évoluer les choses. Considérablement. Si on commençait à vraiment sanctionner des peines de prison, pas des tapes sur les doigts, ça pourrait vraiment faire réfléchir 2-3 personnes, et ça pourrait faire en sorte que ben, on refuse certaines offres d'emploi, que quand on a des transferts dans l'industrie et que ça passe de l'industrie de la défense française à l'industrie de la défense américaine, on se pose des questions. Tout ça est déjà bien encadré, ça demande certainement un peu d'ajustement, hein, mais il faudrait juste appliquer la loi. Si on appliquait la loi, il y aurait énormément de gens dans le monde politique, dans le monde de la haute fonction publique, qui se retrouveraient dans d'extrêmes difficultés. Mais vraiment, on parlerait de milliers de personnes qui se retrouveraient en procès. Il y a de toute façon un moment où la population va se saisir de ces sujets, pas sur le numérique, hein, mais sur la corruption en général, et le retour de bâton risque d'être vraiment très, on va dire, Robespierre, quoi.
J'aimerais bien qu'on recentre un peu sur le domaine qui est le nôtre, c'est-à-dire le milieu du web, notamment, avec ces géants américains. À chaque fois qu'on parle d'eux, on parle des GAFAM. Et quand on parle de sanctions, de taxes, d'impôts, de choses comme ça, c'est marrant, on n'a plus que le terme GAFA qui apparaît très, très souvent. Est-ce à dire que le M, c'est-à-dire Microsoft, serait dans un traitement qui serait un peu spécial? C'est une question qui reste ouverte. Et on a vu qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, lors de Stop Covid, il y avait des solutions proposées notamment par Google et d'autres qui ont été retoquées très nettement par Cédrico et qu'on est allé vers plutôt quelque chose qui allait, pour revenir vers eux, du côté de Microsoft, avec le Health Data Hub plus généralement. Donc est-ce qu'on a des entreprises qui, en France, ont bénéficié d'un traitement, qu'on va dire, de faveur? Des entreprises américaines comme des entreprises françaises. Hein, voilà.
Il y a deux raisons à ce traitement de faveur. Hein. D'abord, il y a une raison sémantique. Le terme GAFA a été inventé par Microsoft. Ils sont pas cons, ils ont vu venir le truc. Et s'ils sont pas cons et qu'ils ont vu venir le truc, c'est pour une autre raison, qui est qu'ils sont beaucoup plus vieux que les autres. Beaucoup, beaucoup plus vieux. Microsoft corrompé à tour de bras au XXe siècle. Hein. Ils n'ont pas attendu la naissance des GAFA pour comprendre tout système. Donc, avant même que Google ne soit utilisé par Madame Michu dans la rue, Microsoft était déjà en train d'acheter du politique à tort et à travers, en France comme ailleurs. Il suffit, là-dessus, on a une documentation incroyable qui est Wikileaks, le cable gate de Wikileaks, donc les câbles diplomatiques envoyés par toutes les ambassades américaines à travers le monde au ministère des Affaires étrangères américain, regorge d'anecdotes sur Microsoft et la façon dont l'ambassade locale appuie une opération qui est très clairement de la corruption. On a, par exemple, pour ne citer que, tout ce qui concerne Microsoft et ses activités en Tunisie à l'époque de Zine Ben Ali. Là, il y a des câbles qui sont hallucinants, où on voit très clairement, là pour le coup, que l'ambassade, et c'est la seule fois où ça leur est arrivé, remonte l'information en disant quand même là, ils sont allés un peu trop loin. Mais c'était la norme pour Microsoft avant que Google n'existe. Donc c'est normal qu'ils aient cette antériorité, cet ancrage dans le monde politique. Et là encore, apprêtez-vous à quelques révélations d'ici, je l'espère, 2022.
Ah oui, carrément. Toi, tu penses qu'il va y avoir des choses qui vont sortir là?
Il y a des investigations sur Microsoft qui ont déjà 5 ou 6 ans avec des journalistes d'investigation français, des vrais et des poilus, qui bossent sur ce sujet depuis des années, des années, des années. Donc oui, vu l'accélération des choses, il n'est pas interdit d'espérer qu'il y ait des grosses révélations autour de Microsoft d'ici 2022. Parce que pour connaître plusieurs des journalistes d'investigation qui travaillent sur le sujet, c'est des gens qui sont tenaces, qui travaillent sur le long terme et qui ne lâchent pas un os quand ils l'ont trouvé.
On va se faire des copains avec ce podcast, je le sens bien. Tiens, pour Antoine Vaucher, qui est un directeur de recherche au CNRS, en fait, ces nouveaux lieux de collusion publique-privée constituent ce qu'il appelle un trou noir de l'exercice du pouvoir. C'est vraiment là, on est là, dans un trou noir. C'est-à-dire qu'on est dans le tabou absolu. Ça semble assez compliqué de dénouer cette histoire-là, Damien, non ?
Oui, très clairement. C'est très difficile, comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile de dénouer des choses qui sont très liées entre elles. L'exercice du pouvoir, le fait qu'aujourd'hui il y a une certaine fluidité, et on peut le comprendre, dans les carrières. Et puis très souvent, des hommes politiques et femmes politiques ont une carrière avant. Très souvent, ils ont été avocats. Donc, il fait que certains ont envie de retourner à la vie civile et ont envie de reprendre leurs anciennes activités. Certains deviennent des chefs d'entreprise. Donc, à la fois, il y a une complexité vis-à-vis, à mon sens, de la volonté aujourd'hui de l'évolution de la société qui fait que devenir un politique professionnel, c'est plus la même chose qu'à l'époque d'un Chirac ou autre. Et à la fois, on est dans un trou noir parce que la question, c'est la question de l'éthique. Même si tu disais tout à l'heure, Fabrice, c'est très encadré tout ça. Les frontières sont complètement floues, elles sont totalement floutées. Et aujourd'hui, finalement, même certains, j'en ai la conviction, font de la politique, sont allés à l'AREM pour se faire un carnet d'adresse. Et pour ensuite, derrière
Dans le numérique, il y en a une, oui. Là encore, ça finira par tomber. Mais dans La République En Marche, mais ce n'est pas les seuls, il y a eu cet appel d'air du monde du business vers le monde du politique. Et il y en a quelques-uns qui sont infiltrés là-dedans, très clairement, pour décupler leur capacité business, et notamment dans le numérique. Ça va être assez drôle là aussi. À mon sens, non, je balance pas de nom, parce que tout ça, c'est des beaucoup d'investigations faites par des gens super sérieux qui ont investi énormément de travail là-dessus. Il est pas question de spoiler leur truc, mais à mon sens, cette complexité que décrit Damien, qui est pas du tout en phase avec l'époque où il y a les gentils et les méchants, hein, de plus en plus, et c'est ultra polarisé. Ça nous amène vers une situation où ça va basculer, où du jour au lendemain, en quelques semaines, quelques mois, tout d'un coup, ça va être un sujet qui va régulièrement ressortir sur les plateaux télé, et la solution va être extrêmement violente. C'est pour ça que j'évoque Robespierre. On va passer de sujet tabou, ça n'existe pas, à « mon Dieu, il faut absolument prendre des sanctions drastiques ».
Est-ce que finalement on n'assiste pas, et ça sera peut-être un peu la dernière question, à un transfert simplement de collusion public-privé ? Avant, on avait les grandes entreprises françaises, je pense à Dassault, des gens comme ça, qui avaient, c'est le moins qu'on puisse dire, des rapports étroits avec le politique, et ça circulait dans les deux sens. Et il y en a eu plein comme ça, et finalement maintenant c'est avec les grandes entreprises américaines que ça se passe aussi, parce que ça continue à se passer évidemment avec des grandes entreprises françaises. C'est juste finalement la prolongation par d'autres moyens, et sur le web, et dans le milieu connecté, de ce qu'on a toujours connu dans la République française exemplaire, c'est ça, non ?
Et en même temps, j'ai envie de dire, il manque encore quelque chose, et ça pourrait venir là encore d'ici 2022. Il manque un grand classique de ces mastodontes de la corruption que tu évoquais, que sont l'industrie de l'armement, la pharma, le pétrole, ce genre de choses. On n'a pas encore de financement de campagne. Mais ça pourrait changer. Il n'y a pas encore eu d'affaires, de financement de campagne à travers le numérique. Jusqu'ici, c'est quand même un domaine réservé à l'armement ou à d'autres secteurs industriels qui sont bien plus anciens et qui ont beaucoup plus d'expérience dans la corruption. Mais il n'est pas interdit d'espérer que ça aussi, ça change.
Tu veux dire qu'il n'y a personne dans le numérique qui aurait financé la campagne de Macron, par exemple, de façon très très forte ?
Non, je ne dis pas ça, pas du tout. Ah non, non, non. Mais je dis que, justement, c'est ce qui pourrait changer dans les temps qui viennent, et qu'on pourrait faire face à ce genre de grande affaire, qui ne serait pas une nouveauté. Hein, des industriels qui financent des campagnes politiques, c'est un grand classique de la politique française, mais encore une fois, jusqu'ici, c'était des vieux industriels du passé, c'était pas des industriels modernes, innovants et numériques.
Allez, la voix de la sagesse pour la conclusion, c'est celle de Damien. Patate chaude, mon garçon, vas-y.
Je pense que très clairement, oui, il y a un point qui va arriver. Alors, je n'irai pas jusqu'à coupage de tête, comme en parlait il y a quelques instants Fabrice. Mais oui, très clairement, je pense qu'il va y avoir... ça va venir se rajouter au ras-le-bol global d'une sensation d'impunité qu'il peut y avoir chez certains politiques Et, 700, et mélangé en plus au monde du business, il va y avoir un énorme maelstrom, gloubi-boulga, qui va se mettre en place, à mon avis, dans l'esprit des gens. Et tout ça risque d'être attisé en plus de manière émotionnelle, à la fois par des médias tels que CNews, bonjour Pascal Praud, que par exemple des réseaux sociaux classiques qu'on connaît bien et qui jouent sur cette émotion, justement. Ça, c'est ça qui me fait peur. C'est cette sorte de cocotte minute sociale qui s'est déjà exprimée, par exemple avec des gilets jaunes, qui risquent d'en rajouter sur le côté « mais franchement, vous nous prenez pour des cons, quoi ». Et là, ça risque vraiment de péter violent. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, la voix de la sagesse, bah, pas forcément, tu vois. C'est plutôt une voix de l'inquiétude. Maintenant, je me dis que merde, putain, j'ai raté quand même. Pour faire du business, j'aurais dû faire différemment. Enfin bref, bon, c'est comme ça, c'est la vie.
Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Damien, merci Fabrice. Et on peut remettre nos pantoufles. Salut.
À la semaine prochaine.
Salut.